Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Rafik Djoumi.
Salut Steph.
Salut Rafik. Et comme vous l'avez remarqué, c'est incroyable, incroyable magie technologique. On filme maintenant en fait les épisodes de Stéroïdes, le podcast. Donc t'as mis ta plus belle chemise, Raf.
Ta plus
belle chemise noire pour pas du tout briller.
On m'a dit notre, pas de blanc
dans notre cadre.
Je suis passé au noir.
Voilà, bravo. C'est bien, t'as raison. Et tout ça pour qu'on puisse voir nos petites trombines sur Internet. Hein. Voilà, quoi. C'est ça, non ? Parce qu'on est des journalistes.
T'as dit que tu voulais plaire aux filles.
Pécho des gonzesses.
Jusque-là, il n'y avait que ta voix doucereuse qui les berçait.
Faut-il qu'on cite le grand détournement à chaque fois qu'on se voit, Rafik ? Cette fois-ci, on va parler d'un film d'action, mais un peu comique. Donc plutôt une comédie.
Un peu comique.
Non, mais une parodie presque même, on a envie de dire, quoi. Tropic Thunder de Ben Stiller.
Oui.
Un film plutôt cool, quoi. Tonnerre sous les tropiques en français. Et tu vas nous le pitcher.
Ah merde.
Ah si.
Ah oui.
Oh, c'est pas compliqué.
En gros, c'est.
Fais pas ton Arnaud Bardet.
C'est pas compliqué. Voilà, c'est une équipe hollywoodienne qui est en train de tourner un film de guerre dans un pays éloigné, voilà, qui est over budget, donc voilà, qui se bouffe un réalisateur un peu péteux, un peu à l'européenne, on va dire, qui est complètement dépassé par le truc, et donc producteurs et agents sont tentent de faire revenir cette production bordélique dans sur les rails. Sauf que en fait ils vont croiser, on va dire, la route de rebelles qui vont basiquement leur faire vraiment la guerre, quoi, ceux qui sont en train de tourner un film de guerre, et les comédiens sont pas tout à fait au courant qu'il y a vraiment
Qu'en fait l'idée c'est de les mettre en condition, c'est-à-dire comme c'est des divas, le personnage dont est inspiré ce film de guerre c'est Nick Nolte, en fait, qui est soi-disant un vétéran de la guerre du Vietnam, suggère en fait de les mettre en condition avec des mini caméras dans la jungle, en fait, et de leur faire croire qu'ils sont
cinéma vérité.
Alors, cinéma vérité, voilà.
Sauf qu'ils sont réellement en danger, ils le savent pas, ils se comportent comme des comédiens, voilà. Donc, de toute façon, ce que tu viens de pitcher, c'était l'origine du projet, en fait. Puisque Ben Stiller avait commencé à penser à cette idée-là sur le tournage du film de Spielberg, Empire du Soleil. C'était toute la scène qui se passait dans le camp de prisonniers.
Ouais, ouais.
Donc il y avait un petit rôle et en fait ça le faisait marrer, en fait, cette idée que pour n'importe quel film de guerre on envoie des comédiens s'entraîner 2-3 semaines avec
en bootcamp
et que les mecs, en fait, au retour de bootcamp ont vraiment l'impression d'avoir fait la guerre et ils sont à fond dans leur perso, etc. Ils se prennent un petit peu trop au sérieux, et du coup il avait effectivement le projet au départ d'un film de bootcamp, c'est-à-dire de mecs qui étaient envoyés en bootcamp, mais en fait ils allaient vivre des choses qui étaient réellement traumatisantes et qui du coup allaient avoir un effet sur leur prestation. Et puis ça a évolué avec le temps, ce truc-là. Et ce qui a donné, enfin, de l'avis des deux scénaristes, ce qui a vraiment donné le film, c'est basiquement Internet, parce que avec l'explosion des news, en fait, et le fait que les gens étaient au courant quasiment au jour le jour des frasques des vedettes, en fait, les coulisses un peu bordéliques des films, ce délire de diva, etc., les gens en étaient un peu plus familiers, et du coup ça les a autorisés à faire un humour beaucoup plus référentiel que le projet auquel Stiller pensait à la fin des années 80.
Alors Ben Stiller, c'est un acteur avant tout, hein, c'est une star hein, de la comédie, mais on sait qu'il est passé à la réalisation.
Fils de Jerry Stiller.
De Jerry Stiller, on apprécie beaucoup récemment. Ici. Ouais. Le père de Constanza dans Seinfeld notamment, quoi, pour son rôle le plus connu, quoi. En tout cas en Occident, enfin en Europe, je veux dire, en Occident n'importe quoi. Et Ben Stiller, en fait, donc c'est un comédien qui est devenu une star de la comédie, mais qui est aussi en fait à la base en fait s'est fait connaître déjà par le Ben Stiller Show, qui était déjà en fait un show qui parodiait pas mal de films, notamment une
le plus célèbre, c'est Die Hard,
la parodie de Die Hard qui s'appelle Die Hard 12, dans lequel en fait ils reprennent ils singent en fait des plans de McTiernan et de Diane de Bont en fait dans un supermarché en utilisant des caddies et des trucs comme ça et ça fonctionne plutôt bien quand tu connais le film, en fait tu reconnais tout de suite les plans qui sont en train de singer, quoi. Ensuite bon bah il est passé, on va dire, alors il a fait une petite comédie.
Reality Bites, ouais.
Ouais, c'est Génération 90 en français, qui était pas terrible parce que c'était vraiment un truc dans l'air du temps. Enfin, moi, je sais que c'était vraiment assez décevant. C'est avec Winona Ryder. Et lui aussi, d'ailleurs, il est dedans, quoi. Par contre, moi, j'aime beaucoup Disjoncté.
Qui est le film, voilà, pour lequel il a payé un prix assez cher, parce que on sent que c'est un mec qui a toujours eu envie de réaliser. Ouais. Et effectivement, Cable Guy, c'était censé être son breakthrough movie, quoi. Celui où il allait pouvoir s'imposer enfin un réalisateur, et parce qu'il avait la grande star de l'époque, qui était Jim Carrey. Et lui et son scénariste, hein, Judd Apatow, étaient persuadés que c'était le film qui allait les porter au sommet, et ça a été exactement l'inverse. Ça a été un bide monumental, qui du coup, les a pas mal handicapés.
C'est pas tant un bide que surtout, en fait, dans le reste du monde, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est pas tant un bide, c'est qu'en fait, il y avait des attentes démesurées parce que c'est le film sur lequel Jim Carrey a touché 20 millions de dollars, le premier, quoi. Ouais. Et donc, en fait, il a fait exploser les records de cachet, donc il y avait des attentes qui étaient liées à ce cachet-là, qui font que, en fait, en gros, c'est considéré effectivement comme une énorme déception pour Sony, Columbia, qui avait produit le film à l'époque, quoi. Mais après, en fait, le truc avec Ben Stiller, c'est qu'il s'est un petit peu refait avec Zoolander, qui est. Honnêtement, une comédie pas très. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de fans, c'est
culte.
Le truc,
c'est que Cable Guy, ça jouait. Ça, je pense que ça demandait un peu trop au grand public. Et une raison pour laquelle ça s'est planté, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont habitués à regarder beaucoup de films, un film comme Cable Guy, on avait les clés pour s'installer dedans. Pour le reste du public, c'était cringe, hein. C'était des trucs ça, chelous, etc., qui pouvaient les mettre mal à l'aise. Alors que Zoolander, effectivement, c'est une comédie qui stabilote, qui te dit d'une certaine façon là où il faut rire, quoi. Ouais. Et en plus, on se fout de la gueule d'un milieu dont on a l'habitude de se moquer, hein, qui est celui de la mode.
Oui.
Donc du coup, voilà, c'était la complicité avec le grand public était beaucoup plus facile à atteindre sur un film comme Zoolander. Et c'est aussi le film qui lui a permis de se refaire justement en tant que réalisateur,
parce qu'il y avait il avait des énormes succès à ce moment-là. Meet the Parents, comment ça s'appelait en français, Mon beau père et moi, Robert De Niro, c'était un énorme carton aussi, quoi. Donc non, il avait en tant que vedette de comédie, il avait sa place, quoi. Alors ce qui est intéressant, moi je trouve, avec Tropic Thunder, c'est que je vais arrêter de dire Tropic Thunder, c'est Tonnerre sous les Tropiques pour nos amis français. C'est déjà la façon de présenter, je trouve, les persos, c'est-à-dire les divas. Il y a un premier truc, c'est que t'es lancé directement dans le truc, c'est que tu vois les bandes annonces. Alors c'est pareil, ça c'est l'avènement d'Internet, parce que avant, les bandes annonces, tu les voyais en salle. Donc là, ça fonctionne sur cette même idée, en fait, que tu vois des fausses bandes annonces qui te présentent chacun, en fait, des personnages principaux qui sont donc, t'as le personnage de Jack Black qui est une espèce d'ersatz d'Eddie Murphy, dans la comédie, grâce à la Professeur Folding, quoi. Le personnage, alors t'as un rappeur. Qui s'appelle Al Pacino, qui lui pour le coup c'est pas une bande annonce, mais c'est une pub en fait pour son produit, enfin sa boisson énergétique, je sais pas quoi, voilà. T'as le personnage de Robert Downey Jr. Qui est pour le coup l'acteur
oscarisé
de la méthode, en fait, c'est-à-dire qui fait un film Sundance, sur
des curés amoureux,
c'est un truc à la Brokeback Mountain, on va dire,
avec Tobey Maguire qui s'est libéré d'un tournage pour aller faire le
con avec eux, parce que c'est vraiment des bandes annonces de 2 minutes, hein, et qui sont très, très très drôle, quoi. Et t'as donc le personnage de Ben Stiller qui lui est la star d'action un peu bas du front, qui fait des films. Je sais pas à qui il faisait référence. Enfin, c'est un amalgame un peu de tout le monde.
Un mélange Tom Cruise, Bruce Willis.
Ouais,
et
c'est ça. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Tom Cruise. Enfin,
mais ça, ils étaient pas censés le révéler avant la sortie du film que Tom Cruise était dedans.
Que t'as Tom Cruise qui est dans le film, mais t'as aussi en fait un sketch assez marrant pour MTV en fait à l'époque de Mission Impossible 2 où t'as Ben Stiller qui faisait la doublure cascade de Tom Cruise. Le sketch était plutôt rigolo parce que il était déjà dans l'imitation de Tom Cruise. Comme bon, aujourd'hui tout le monde le fait, il y a même un deepfake Tom Cruise, tu vois, voilà quoi. Mais à cette époque-là, c'était assez nouveau et c'était plutôt marrant, quoi. C'était plutôt bien fait avec John Woo qui joue très bien, n'est-ce pas, dans cet extrait, quoi. Mais alors, du coup, cette présentation-là, c'est une présentation un peu voilà, inhabituelle dans le cadre du film. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais tu parlais de l'Empire du Soleil, la scène d'ouverture, justement, la scène où ils font tout péter et ils ratent le plan. C'est aussi une anecdote célèbre en fait de
L'Empire du Soleil, oui, ouais. Effectivement, le gamin, ils avaient passé 2 semaines à préparer un énorme bombardement de camps par des avions et le môme Christian Bell, voilà.
Ouais, qui était
tout petit, quoi. C'est planté, en fait. Il a pas fait ce que Spielberg lui avait demandé. Et effectivement, voilà, Spielberg a dû se rattraper avec des caméras de secours avant que le décor ne brûle complètement. Enfin, voilà.
Apparemment, il en a vraiment bouffé son chapeau parce qu'il a failli
sur le making-of d'Empire du Soleil, on sent pendant un quart de seconde qu'il est tout à fait capable de le tuer sur place. Mais les caméras tournent, quoi.
Parce que c'est un plan très méticuleux avec il avait besoin d'une action et tout, et en fait, en gros, toute la scène d'ouverture du film, c'est ça. C'est-à-dire
qu'il était censé se retourner vers la caméra avec derrière un décor qui pète dans tous les coins, effectivement, et des avions qui passent, quoi. Donc,
voilà, c'est ça.
C'est clairement, oui, ça y fait référence. Ouais.
Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que y a cette logique-là. Et on a parlé un peu de Tom Cruise. Donc, c'est un film sur l'envers du décor hollywoodien aussi. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, c'est une façon de présenter, comment ça fonctionne à Hollywood, en foutant de la gueule du truc, quoi. Donc, t'as le personnage de Tom Cruise. Et toi, tu penses qu'il fait référence à qui, en fait, ce personnage-là?
Alors, quand on voit son physique de grosse brutasse, à l'époque, nous, la première personne à laquelle on a pensé, c'était Harvey Weinstein, hein, qui, bien avant de se faire clouer au pilori par les femmes qu'il a violé, c'était déjà distingué comme un type d'une violence excessive,
ouais, brute, quoi.
Enfin, une brute, un mec qui faisait peur en fait aux gens physiquement, quoi. Donc physiquement il y a effectivement un peu de Weinstein, mais en réalité je pense que son nom Les Grossman ferait penser à Lou Wasserman, mais en réalité, de ce que j'ai compris, c'est plutôt Sid Sheinberg en fait qui parodie là, qui est un type qui avait une autorité un petit peu mafieuse, on va dire, à Hollywood. Les gens étaient terrorisés par ce gars-là.
Patron de la Universal.
Universal Studio, voilà. Grand protecteur de Spielberg, pour le coup.
Mentor, hein.
Mais voilà, qui est un gars dont, tout le monde flippait, quoi. Juste un coup de fil de Sid Sheinberg. Enfin, la scène de visio qu'ils ont avec l'équipe, je pense que c'est la moitié des trucs qu'ils se disent, c'est du vécu, quoi.
Ouais, puis je pense, alors, pour le coup, clairement, la scène où il dit qui est le machinot, en fait, dans la pièce, et il demande au machinot vous avez pété la gueule au réalisateur, je suis sûr que c'est du vécu, quoi. C'est obligé. Enfin, t'as pas une idée comme ça dans un film comme ça. Parce que la scène est même pas plus drôle que ça, en fait. C'est juste que tu te dis, ah ouais,
ce qui est hilarant, c'est qu'en fait, en réalité, le mec, il est à l'autre bout de la terre, quoi.
Ouais.
Mais justement, sur des patrons de studio comme ça, c'est comme des mafieux. Tu te dis, même au bout du monde, je suis quand même en danger. On sait jamais avec ces gars-là, quoi.
Et y a une transformation physique totale, en fait, de la part de Tom Cruise, c'est-à-dire qu'il y a, moi j'ai vu une interview de lui des années après où il en parle, et en fait en gros il avait deux tripes en fait apparemment sur ce film-là, quoi. C'était, il voulait avoir des mains, des bras gigantesques, en fait, et il voulait danser,
ouais.
Et donc t'as deux scènes effectivement où il se met à danser pour essayer de la première c'est pour essayer d'amadouer l'agent de Ben Stiller pour le mettre dans leur confidence, quoi, parce qu'à un moment donné ils sont vraiment dans une logique où ils se disent ça y est, on les a perdus, il va falloir qu'on éponge les problématiques de ce film et qu'on se fasse rembourser par les assurances, quoi. Quitte à laisser mourir les acteurs, en fait, à l'autre bout de la planète, quoi. Et t'as une scène, en fait, où il se met à danser et à essayer de draguer le gars. Et c'est vrai que la scène, elle est assez. Enfin, c'est une scène de comédie, mais elle est assez autre, en fait, aussi. Parce que t'as pas l'habitude de voir ce genre de truc-là comme ça, quoi. Et bon, ils reprennent le truc un peu à la fin avec.
Le générique de fin,
ouais. Ouais, le générique de fin pour la blague, quoi. Et ouais, effectivement, il y a ce truc-là. Et tu sens, en fait, que Tom Cruise. Quelque part régler aussi ses comptes à cette époque-là, parce que en gros on est vraiment le film sort en 2008. À cette époque-là, Tom Cruise commençait à lancer son propre studio à lui, hein, c'est-à-dire qu'il avait récupéré la United Artists qu'il a pas réussi à relever, et il se voyait en fait en patron de studio. Et en même temps, il venait de se faire un petit peu casser son contrat clé avec la Paramount, ouais, ouais. Et du coup tu sens que bon, il y avait l'envie de jouer avec ça, ce qui est quand même pas habituel en fait pour quelqu'un comme Tom Cruise, qui est quand même dans un contrôle énorme. Bon, il y avait aussi la fameuse accident chez Oprah Winfrey à cette époque-là, quoi. Mais tu sens que c'est pas habituel en fait d'avoir quelqu'un comme ça, même pour la blague, qui partirait dans ce genre de truc. Donc c'est incarné de façon presque j'ai pas envie de dire malsaine, mais en tout cas revancharde.
Ah, très clairement revancharde, oui. Ouais. Non, et puis, enfin, pour moi, c'était la première fois que genre, Hollywood nous a habitués à faire des films dans lesquels on se met en boule. Et je dirais que l'essentiel de Tonnerre sous les Tropiques, c'est de la gentille mise en boule, quoi.
Oui.
On se fout de la gueule des comédiens, de leur ego, voilà, de leur côté absolument nombriliste et incapable de ne serait-ce que d'évoluer dans le réel, quoi. Mais pour la première fois, on avait un producteur. Là, parce que l'image du producteur que le cinéma américain nous a vendu, c'est effectivement le mec au gros cigare et avec une petite pépée sur son yacht, quoi. Mais pas un chef mafieux. Là, vraiment, c'est ce qui ressort du truc et tu dis, ah oui, quand même, quoi. Cette violence-là, dans une comédie grand public, elle laisse des traces, je pense. Hein. Bref, en tout cas, bon, ça a été, mais un gros moment qui a été un peu grillé par les paparazzi d'ailleurs, parce qu'ils ils ont photographié Tom Cruise avant que le film ne sorte, alors que c'était censé être une surprise en fait, son apparition. Maintenant, bon. L'autre truc qui nécessite beaucoup de beaucoup de grimages et de maquillage et beaucoup de négociations aussi, ça a été le blackface de Robert Downey Jr. Donc
moi je trouve étonnamment en fait en gros bon déjà le propos est assez clair hein, dans le film, c'est-à-dire déjà en premier lieu on se fout de la gueule de l'acteur de la méthode, c'est-à-dire que là en l'occurrence dans le film, comme il est censé incarner un personnage noir alors qu'il est blanc, puisque c'est Robert Downey Jr. quoi, qu'il est australien en plus, toute l'idée en fait, si tu veux, qu'il aille se faire pigmenter la peau exprès en fait pour le rôle, quoi, parce qu'il va jusque là. C'est aussi une manière de se foutre de la gueule de la méthode, dans le sens où en gros le personnage ne sait même plus qui il est vraiment au bout du compte en fait, et c'est lui qui dispense en plus des leçons,
ouais,
si tu veux, d'acting, mais pas seulement d'acting, de politique en fait de l'acteur, si tu veux, auprès de Ben Stiller. Il y a notamment, parce que Ben Stiller lui
a cherché à se racheter une image de grand comédien en jouant un débile mental dans un film, là.
Voilà,
Simple Jack
ouais. avec des moments, c'est assez marrant hein, dans le film, parce que tu le vois, il est vraiment ils lui ont mis des dents pourries il a une tête de demeurer, quoi, et la fameuse scène, c'est Robert Downey Jr. qui lui dit you never go full retard, il faut jamais jouer le débile profond, il faut qu'il ait une lueur de d'intelligence pour que l'Académie des Oscars en fait récompense. Et il donne des extraits, il dit par exemple Rain Man,
Dustin
Hoffman, il est autiste, il est à moitié stupide, etc., mais il arrive à compter, donc en fait voilà, il est brillant, quoi, tu vois. Comment il s'appelle, Sean Penn dans Sam je suis Sam, bah alors là full retard, et donc en fait en gros il rate son coup, il rate l'Oscar, quoi. Et c'est vrai qu'on se fout de la gueule en fait des mecs qui essayent vraiment en fait d'avoir une crédibilité, quoi, mais dans les deux sens en fait, si tu veux, là où
ce qui est fou d'ailleurs, parce que Sam je suis Sam, c'est le film préféré de Nicolas Sarkozy, donc
c'est vrai, mais ça, c'était,
il a quand même une,
mais ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a, je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a soufflé la phrase, c'est pas possible. Il a dit c'est quoi le film que vous avez vu la veille, il a sorti Sam je suis Sam, franchement il aurait vu Doux dur et dingue ou Banana Joe la veille, il aurait sorti ce film là, quoi. Donc non, à un moment donné,
ouais,
on n'est pas dupes. Mais non, ce qui est assez marrant, en fait, je trouve que c'est que t'as une espèce dans la façon de décrire les personnages, puisque globalement, c'est pas des personnages qui se réalisent non plus dans ce qu'ils traversent. En fait, ils se réalisent dans leur propre vanité, quoi. Parce que, en gros, tout l'aboutissement, en fait, de ces deux personnages-là, c'est de s'assumer, en fait, en tant qu'une star d'action et comment dire, une vedette, en fait, un acteur de la méthode, quoi. Et justement, il y a ce moment clé à la fin où ils se retrouvent tous les deux et ils se questionnent en fait sur qui ils sont en tant qu'acteurs, quoi. Et c'est quoi la phrase, c'est je suis un mec déguisé en mec qui est déguisé en mec qui est déguisé en mec, quoi, tu vois. Et ce qui est rigolo d'avoir un mec comme Robert Downey Jr. Bon, Robert Downey Jr. maintenant c'est Iron Man, hein, donc il se foule plus, hein, ça fait un moment qu'il se fait plus trop chier, quoi. Mais à une époque, il avait cette aura justement d'acteur qui se fondait dans plein de, qui est capable de se fondre dans plein de rôles différents. Il tournait avec Robert Altman, il a été nommé pour Chaplin. Bon, il avait fait évidemment. Pour moi, Robert Downey Jr. c'est une créature de rêve. Donc voilà, quoi. Mais en tout cas de cette époque-là, quoi. Never forget. Mais voilà, c'était quelqu'un qui avait un range, quoi, une façon qui avait un déploiement qu'il a plus du tout aujourd'hui. Et vraiment, en fait, ce film arrive à la charnière de sa carrière parce que c'est un des derniers rôles, en fait, post
de composition.
Ouais, de composition au moment où Marvel l'a attrapé pour en faire une méga star, quoi. Donc ça tombe. Enfin, le film profite de ça aussi. Ça tombe effectivement au bon moment, quoi. Moi, je le trouve vraiment drôle parce que toute l'idée, en fait, de sa composition justement là-dedans aussi, en fait, c'est de rester en surface. En fait, disons la blackness, tu vois, qui cherche à avoir, puisqu'en fait, il cite les Jeffersons, qui est une série, un sitcom des années 70-80 américain très connu, et ce genre de choses, tu vois. Donc, en fait, en gros, il est totalement en surface, il est pas du tout. Il y a ce moment, en fait, super drôle aussi, qui est super bien écrit, quand tu sais, c'est ce fameux truc raciste qu'on dit You People, tu vois, en fait. Et lui, il dit What do you mean, you people, tu vois. Et t'as Al Pacino derrière qui est noir qui lui dit mais what do you mean you people, puisqu'il lui rappelle qu'il est blanc, quoi, tu vois. Donc t'as tout un jeu comme ça autour de ça qui est assez marrant, et effectivement je pense que ça n'a pas dû être facile à négocier dans un gros film de studio, quoi.
Ouais, non, mais parce que déjà à l'époque c'était effectivement délicat de blackfacer les comédiens, mais c'est vrai, effectivement c'est vraiment ouais, c'est un bien grand mot, mais la complexité du rôle, enfin le côté à tiroir du truc, c'est-à-dire que quelle que soit ta position idéologique, on va dire, tu comprenais que ça le mettait en boule. Ça met en boule le racisme latent du personnage, mais ça met en boule aussi le militantisme antiraciste qui refuserait un comédien, tu vois, de réellement s'impliquer d'accéder. Enfin, c'est l'inverse. Je pense que c'est le mot appropriation culturelle, ils se le sont pris tel quel, tu vois, pour construire ce personnage-là. C'est l'appropriation ultime. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une nana qui a défrayé la chronique il y a quelques années, justement, parce qu'elle se considérait comme black, quoi. Elle n'était pas du tout. Oui, voilà. Et c'était ridicule de la voir effectivement grimée, voilà. Mais elle disait, je m'identifie à. Bon, ouais. Donc ils ont aussi un peu joué de ça. Non, c'est sûr que le film est vite plein de mines, hein, en termes d'humour. Et de trucs qui généralement font partir les Américains en vrille, enfin les Américains urbains, quoi.
Oui, bah de toute façon il y a eu un rétrospectivement, en fait il y a eu une attaque, en fait, de blackface, en fait, sur le film, quoi. Mais sauf que ça a été complètement ça a été avorté dans,
c'est désamorcé par le film lui-même, en fait.
Une fois que t'as vu le film,
il y a pas de prise, on va dire, pour les puritains sur l'humour que le film propose, parce que justement il c'est un film autodestructeur quelque part, quoi, qui se fout tellement de sa propre gueule que
ça... Ouais, et puis en fait en se référant aussi à des films à des canevas cinématographiques, hein, c'est-à-dire que par exemple encore une fois appliqué au personnage de Ben Stiller, quand il se retrouve justement, en fait, dans le village et que en gros les trafiquants, en fait, le connaissent parce qu'ils ont vu Simple Jack et qu'ils tripent sur Simple Jack et qu'ils lui demandent de jouer Simple Jack sur scène, tu vois, et il refait tout le truc et ils le battent jusqu'à ce qu'il joue le film entier. et que d'un seul coup il se dit ça y est j'ai trouvé mon public si tu veux, et il commence à partir dans le truc. Il y a la volonté en fait de jouer avec le personnage de Brando dans Apocalypse Now, en fait, si tu veux, de recluse, tout ça, etc., etc. Donc en fait ça cite en fait la façon dont c'est écrit, c'est déjà aussi une parodie en fait de ces moments-là, mais appliquée en fait au parcours des personnages, quoi. Donc moi je trouve ça plutôt bien vu, plutôt bien pensé, quoi.
Ça fonctionne. Je pense que tout, si le film fonctionne aussi bien en termes d'humour, c'est parce que sa principale et unique cible, je dirais, c'est la vanité, quelle qu'elle soit.
Ouais, bien sûr.
Et donc du coup, la vanité de ne serait-ce que de faire un film. La mise en abîme, elle est que cette équipe-là, ils ont vraiment mis les moyens pour le faire. Je veux dire, ils ont John Toll à la photo, quoi. C'est pas n'importe qui, quoi. C'est le chef-op de Braveheart et compagnie, quoi. Donc, c'est une vraie production hollywoodienne avec de vrais moyens. Et les mecs disent, on va se foutre de notre propre gueule, mais on va vraiment y aller à fond, quoi.
Même si Ben Stiller, pour le coup, c'est quelque chose qu'il a souvent fait, on va dire, dans l'absolu, c'est-à-dire que détourner les, on va dire, entre guillemets, les attentes, parce que lui-même, en fait, ne se met pas vraiment lui, il a pas de velléité. Enfin,
à aucun moment, il donne de leçons de bien vivre, ou savoir, ces personnages resteront des cons, hein, jusqu'au bout.
Mais ils vont gagner l'Oscar.
Voilà. Ouais. Mais ce qui rajoute à la connerie, quoi, si tu veux. Le film que Judd Apatow s'apprête à nous sortir au moment où on enregistre cette émission, moi j'en ai déjà peur à cause de ça, simplement à cause du fait que sous prétexte de mettre en boule Hollywood,
il est déjà sorti ce film.
Oui, je l'ai
film
pas
sur
vu,
Netflix, ouais, moi non plus, ouais. Mais la bulle là, c'est ça, non, la bubble là, ouais. Si c'est sorti.
Mais sous prétexte de sous prétexte de mettre en boule Hollywood, on a la sensation que derrière il cherche à glisser sa petite quenelle, quoi, Là où dans Tropic Thunder, c'est en réalité on est juste des putain de comédien, quoi, des faire-semblants, tu vois. Donc c'est vraiment encore une fois la vanité qui est égratignée régulièrement, et je pense que le bon humour, il est là, quoi. Le bon humour, il est quand tu t'en prends on peut pas rire de quelqu'un vis-à-vis duquel on se sent supérieur. On ne peut rire que de quelqu'un qui se croit au-dessus de toi, en fait. C'est pour ça qu'on se moque plus facilement des rois, des princes, etc., quoi. Donc des gens qui gagnent excessivement bien leur vie en faisant un métier entre guillemets de rêve, etc., aux quatre coins du monde, de réaliser qu'en fait c'est quand même des trous du cul, quoi. Des pignoufs. Ça invite à l'humour, quoi.
Donc quelque part ça s'adresse un peu au public qui rigole quand t'as Ricky Gervais qui présente les Golden Globes et qui se paye leur fiole pendant 3 heures de cérémonie, quoi. Bon, le film est un peu plus entre guillemets élaboré que ça, mais moi j'aime beaucoup Ricky Gervais, j'aime beaucoup le fait qu'il aille un peu leur mettre une torgnole en fait derrière les oreilles, quoi. Mais c'est pas simple pour eux, mais c'est simple pour l'industrie, on va dire, si tu veux.
Il y a un truc sympa avec l'idée, justement, que dès le départ tu sais que t'as affaire à un film, à une fiction, donc à tout point de vue, c'est que du coup ça lui permet d'avoir quelques effets gorasses que tu ne vois pas forcément dans les comédies, quoi. Il y a quand même une scène entière où Ben Stiller est en train de faire le con avec une tête coupée
qui est la tête du réalisateur, en plus. C'est-à-dire que le réalisateur s'est fait exploser, disparaît du film très très rapidement, voilà. Quoi,
donc effectivement, comme eux, ils pensent que c'est dans, ça fait partie du film et que donc c'est un effet spécial. Donc il récupère cette tête et il commence à faire le con avec, alors que c'est une vraie tête qu'il est en train de se trimballer à ce moment-là. Et t'as quand même la scène, elle est macabre, hein, mais de voir dans une grosse prod hollywoodienne la vedette du film en train d'essayer de rouler un palo à une tête coupée, enfin, c'était quand même pas donné que ça passe, quoi.
Ouais, alors il y a d'autres trucs qui sont brocardés, hein. Il y a le fait de pas être autorisé justement à afficher sa sexualité, en fait, quand t'es une star, une vedette hollywoodienne, hein. T'as le personnage d'Al Pacino qui est homosexuel, donc ça c'est pareil, c'est brocardé aussi, le fait qu'il ait pas la possibilité de sortir du placard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fameux vétéran qui se fait du beurre en fait, qui se fait du beurre sur une réputation qu'il n'a absolument pas parce qu'il a jamais été au Vietnam, quoi. Mmh. Je crois qu'il était objecteur de conscience ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça. Et d'ailleurs, il a même pas les mains.
Les mains coupées, ouais.
Les mains coupées, en fait, si tu veux, et les crochets qu'il a à la place, il les a pas. Donc en fait, ça tire. Ce qui est assez, sans être forcément ultra méchant hein, comme film, hein, parce que c'est vrai que c'est pas non plus ultra agressif, quoi. J'ai envie de dire, Ricky Gervais, il est un peu plus hein, quand il fait ses trucs, quoi. Ça tire quand même mine de rien, finalement. Sur tout le monde, il y a personne n'est vraiment
Et ça le fait avec encore une fois quelqu'un qui a réalisé du coup qui a toujours été attentif à la façon avec laquelle ces films seront faits. C'est-à-dire que il méprise pas le genre.
Ah non.
Si ça fonctionne,
il refait des plans de platoon, il refait
exactement,
des plans de...
et il réussit à les refaire justement. Encore une fois, on citait John Toll à la photo, s'il va chercher un mec comme ça, c'est parce que voilà, John Toll c'est aussi le gars qui a fait Claude Atlas et autres le dernier Matrix d'ailleurs, c'était lui. Donc c'est pour le coup un vrai vétéran. Et Ben Stiller, on l'a peut-être, voilà, on l'a pas précisé, mais il a à côté de sa carrière de comédien, il a aussi réalisé plein de petits trucs. C'est-à-dire, il a fait des clips, il a fait des, je crois qu'il a fait des pubs. À l'époque, il s'est occupé d'une web série, donc il est habitué à tous les formats, à toutes les façons de faire. Et d'ailleurs, ça se sent dans les bandes annonces qui sont drôles parce qu'elles jouent justement de tous les trucs et astuces du marketing visuel, quoi. Donc il connaît le, et ça se voyait dans le sketch de Die Hard que t'as cité tout à l'heure. Qu'il avait vu le film et qu'il connaissait les plans par cœur, quoi. Donc ça rajoute, on va dire, à la ça aurait été problématique si on se foutait de la gueule d'Apocalypse Now, de La Ligne Rouge et de ces films-là en filmant ça comme du Marguerite Duras, quoi, voilà, c'est ça, ouais.
Non, mais comme une comédie américaine de base.
Le fait que le film ait de la gueule, ça donne du cachet à son humour.
En fait. Et c'est une des raisons là, d'ailleurs pour lesquelles on en parle vraiment, parce que c'est au-delà du fait en fait que ça puisse parodier des films de guerre, que ça puisse parodier en fait le système hollywoodien de cette époque-là. Mais bon, j'imagine qu'il a pas fondamentalement changé, hein, voilà. Il y a aussi ce cachet en fait qui en fait un film en fait comment dire parodique, c'est-à-dire au sens où même les plans en fait c'est ça, ouais, pas à ce point là parce que là ça va très très loin dans la parodie, quoi, mais qui en fait vraiment un truc où tu sais que les gens qui ont fait ce film savent de quoi ils parlent, ils connaissent ces films là ils apprécient ces films là ils ont juste pris le parti d'en rire, quoi. Il y a un dernier détail en fait qui est un peu dommage. C'est un film qui a une quinzaine d'années maintenant, Tropic Thunder, mais il y a eu à un moment donné, parce que justement le personnage a été assez apprécié, assez populaire, le personnage de Les Grossman, il y a eu l'idée de faire un spin-off en fait avec Tom Cruise dans le rôle. Alors je sais pas ce que ça aurait raconté exactement, mais ça a été abandonné par je crois que c'est le studio, c'était DreamWorks et Paramount, en fait je crois que c'était conjoint la production, quoi, et ça a été abandonné en fait avec le temps, ce qui est vraiment dommage parce que déjà, je pense qu'il y a moyen de faire un film autour de ce personnage-là. Surtout aujourd'hui, en plus, en post-MeToo, si tu fais vraiment un truc où tu fous la gueule du truc, ça peut être marrant.
Est-ce qu'Hollywood est vraiment capable de faire une vraie mise à mort d'Hollywood? Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Pour moi, enfin voilà, l'auto-parodie d'Hollywood, elle est généralement sur des trucs gentils et accessibles. Mais tout l'aspect dark noir, dépressif,
ce si personnage-là,
que ce personnage porte en lui, mais et qui renvoie à la criminalité qui existe bel et bien dans cette ville. Je pense pas que tu puisses faire des films, surtout des comédies là-dessus, quoi.
Bah, tu penses qu'ils auraient la volonté, en fait, à un moment donné, de lui acheter une espèce de rédemption, de lui offrir une rédemption pour comment dire.
Non, mais enfin, on voit bien avec des séries comme Entourage et tout, il y a toujours une limite, quoi. Si tu veux, tu peux te foutre de la gueule de plein de trucs à Hollywood, mais à un moment donné, quand tu commences à rentrer dans le business, c'est là où c'est genre, ouais, bon, là, on va peut-être éviter, quoi.
Mais c'est intéressant que tu pointes Entourage comme exemple, parce que justement, moi, je trouve que c'est le contre-exemple de Tropic Thunder, justement. C'est-à-dire que tu sens bien que dans Entourage, c'est très, très, on reste très en surface. C'est-à-dire, moi, je me rappelle qu'il y avait ce truc qui m'avait un petit peu.
L'histoire de cul, ce genre de truc-là, ouais.
Ouais, puis surtout, en fait, on va dire, je sais pas combien il y a de saisons, admettons qu'il y en ait 5-6, tu vois, c'est à la quatrième que le mec il prend de la coke, t'as envie de dire, ouais. Bien sûr, tu vois. Donc en fait, c'est des trucs où tu te dis, c'est pas un arc narratif, en fait, ça fait partie de la toile de fond normalement, ça. Donc que ça devienne un arc narratif pour vous, c'est la démonstration que vous êtes un peu, c'est l'Hollywood de fantasy en fait, qui sont en train de dépeindre. Alors que c'est une des qualités, là, je trouve, de Tropic Thunder, c'est que certes, en fait, si tu veux, ils tirent pas à boulet rouge sur tout ça.
Non.
Mais par contre,
son métier de comédien, il tire quand même un peu à boulet rouge.
Bien
c'est
sûr,
c'est le seul endroit où il se permet d'être virulent. Et effectivement, il y en a pas tellement des films comme ça. Bah écoute, moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Sunset Boulevard de Billy Wilder, hein, qui est quand même, c'est pas rien, quoi, si tu veux. En tant que film qui vraiment mettait un coup de projecteur sur ce que l'horreur que c'est d'être une star hollywoodienne, en fait, quoi, pour d'autres raisons, hein, qui étaient celles de la folie, mais dans Tropic Thunder, on n'est pas si loin que ça.
Il y a aussi un film qui s'était complètement planté, en fait, qui est aussi un film sur le système hollywoodien, qui était S.O.B. hein, de Blake Edwards,
ouais,
quoi,
ouais.
Qui était vraiment un film très méchant pour le coup,
ouais.
Presque même trop pour le coup, en fait, si tu veux, il avait pas d'ouverture. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce film. J'aime beaucoup Blake Edwards, mais j'ai toujours eu du mal avec ce film parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment il faut vraiment être un insider entre guillemets d'Hollywood pour comprendre vraiment de quoi il parle, tellement ça va loin, en fait.
Il essaie de faire rire avec des choses qui sont pas forcément très drôles, et effectivement, à l'époque où, pareil, quand j'ai découvert le film, moi j'avais apprécié parce que cet humour noir m'avait surpris, mais en même temps je savais pas que la moitié des anecdotes étaient des trucs qui s'étaient réellement passés, quoi. Donc
c'est la qualité, on va dire, entre guillemets, Tropic Thunder, c'est que c'est des anecdotes aussi qui se sont passées,
ouais.
Mais que eux ont quand même arrivent à ouvrir vers le grand public,
ouais, c'est ça, sans qu'on soit un insider, ouais, c'est sûr.
Ouais.
Donc, mais on vous invite quand même à découvrir le film de Blake Edwards.
Ouais, tout à fait.
S.O.B.
Ouais.
Si vous voulez voir les nichons de Mary Poppins,
c'est moi, ça bon, ouais, d'accord.
Que t'es aberrant dans ce film-là.
Ouais, ouais. C'est pas le seul truc, quoi.
Non, mais bon, pour le public américain de l'époque, quand ils ont vu, enfin, le film a été un bide, mais quand les critiques ont vu ça, ils se sont dit, mais il est fou, Blake Edwards. Ouais. Effectivement, au moment où il fait S.O.B., il est réellement comme le réalisateur qui met en scène, il est en pétage de plomb total.
Ouais. Bon, après, il s'est un peu rattrapé
avec Victoria,
qui a été un gros succès aussi.
Ouais.
Mais qui n'a plus rien à voir avec la choucroute.
Non, mais S.O.B., je pense que c'est un bon modèle de comment dire, d'annonce de ce que pourrait être, de ce qu'est Tropic Thunder et de pourquoi Tropic Thunder a marché, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc ouais, moi je trouve quand même que j'aurais aimé voir ce film sur Les Grossman. Je pense que ça aurait été aussi salvateur pour la carrière de Tom Cruise qui enchaîne juste les Missions Impossibles, quoi, en ce moment, quoi, et les Top Gun et les trucs comme ça, quoi. Donc ça aurait pu être plutôt sympa. Le film, je trouve, Tropic Thunder tient toujours super bien la route aujourd'hui, quoi. Il est relativement fun et toujours agréable à suivre, quoi.
Visuellement il est bien fait,
il a de la gueule et tout, quoi. Donc voilà, donc on recommande,
on recommande,
voilà. Bon, après, c'est pas pour rien qu'on a fait un épisode de stéroïdes là-dessus, et en plus on lui consacre le premier épisode filmé. Merci Raph.
Merci Steph.
Merci Antoine et merci Alain à la technique. Merci à vous les auditeurs. Je me tourne vers vous, regarde, je vous regarde parce que je ne suis pas habitué à la caméra, mais ça va venir, quoi. Merci aux auditeurs, merci aux tipeurs, en fait, qui peuvent nous soutenir, vous pouvez nous retrouver sur Tipeee et sur toi tu le fais bien, toi, Sarah, en général, tu vois, t'aimes bien me prendre la
je sais bien soutenir, ouais.
Voilà,
sur Patreon et sur Tipeee,
voilà, bravo, quoi. Et en fait on peut se retrouver sur les réseaux sociaux habituels, hein, sur Capture Max, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et puis on vous dit à la prochaine avec un autre film. Voilà, salut.